Les éditions Autrement dit ont le plaisir de vous présenter Les contes du vent et de la nuit d'Anatole Le Braz, lu par Stéphanie Leclé. L'innocente. Un meurtre bien involontaire, certes, dit le juge, mais tout de même, un meurtre. Et il commença. Au fond de la baie de la forêt, entre la pointe de Begmey et celle de Trévignon, se creusent deux fjords secrets, deux mystérieuses filtrées de mer glauque sur qui semble planer encore tout l'inviolé des âges d'avant l'homme. Ils sont parallèles et comme jumeaux. Sur les cartes, ils portent les noms liturgiques de Saint-Laurent et de Saint-Jean. Un promontoire arrondi les sépare, que saignent d'une double guirlande semi-terrestre, semi-marine, des ors superposés de varechs jaunes et de jeunes ajoncs. Au rayon du couchant, on dirait la proue somptueuse de quelques navires de féerie. Des pins le couronnent, quasi centenaire, avec des troncs bizarrement branchus à qui la fantaisie du vent s'est plu à donner des formes de harpe et de lyre, et qui, sous leur fine chevelure aérienne et sonore, font penser à un cœur harmonieux de vieillards célébrant au retour d'une odyssée lointaine l'océan qui les épargna. Des deux fjords, celui de Saint-Jean est de beaucoup le plus abrité, le plus solitaire, le plus vierge. On y a vraiment la sensation de l'inexploré. Les choses y sont restées dans l'attitude qu'elles durent avoir au lendemain de la Genèse et gardent cet air de songerie énigmatique des lieux où nul pas humain n'a retenti. La première fois que j'y pénétrai, ce fut par terre, au crépuscule. La veille, le peintre Glézard m'avait écrit « Viens, j'ai besoin de ton ministère. Tu me trouveras à la jonction de la nouvelle route de Concarneau avec l'ancienne. » Je t'attendrai sur le coup des 6 heures dans l'auberge qui fait l'angle. » Lorsque j'arrivai au rendez-vous, Glézard était en grande conversation avec le cabaretier. « C'est tout de même pas trop singulier, » insistait-il en heurtant du poing de la table. « Elle est née quelque part, voyons. Elle a un état civil. » Comme j'entrais en ce moment, il me prit à témoin. « Admets-tu ça, toi, qu'en France, à l'époque où nous sommes, il y ait une créature dont personne dans son entourage ne puisse vous dire ni le domicile, ni la provenance, ni le nom ?»« Un être mythique, quoi, » prononçai-je en riant. Et j'ajoutai à tout hasard, « Chez les Bretons, mon cher, rien de plus normal que le mythe. Il est la suprême réalité. » Moi, fit le cabaretier, je vous ai conté d'elle ce que j'en savais. Enfant, elle accompagnait, dans sa quête d'aumône, une antique pauvresse, la Glida. Toutes deux logeaient alors dans un gabion, une hutte de pierre et d'argile que des douaniers compatissants leur avaient abandonnée sur la falaise. Mais un soir d'équinoxe, le même coup de temps emporta l'âme de la vieille et la toiture du gabion. C'était il y a 12 ans. La petite en avait peut-être 5, 6 au plus. Depuis, elle est une sans-gîte, comme elle était une sans-nom. Elle vit de la charité publique. On ne la voit paraître que quand elle a faim. Jamais une parole d'ailleurs, un cri seulement, guttural et prolongé, comme un appel de courlis au large. Pour la désigner, les gens disent « C'est l'innocente !» Le recteur de Cloire a tenté naguère de la catéchiser. Ah, oui ! Lorsqu'il a voulu la forcer de se mettre à genoux, elle faillit lui sauter au visage. En revanche, elle se prosterne comme une païenne devant les arbres, devant le soleil levant, devant la mer. « Croyez-moi, monsieur Glézard, ça doit être né comme les champignons, les rosées de la nuit, ou comme les mouettes, de l'écume des vagues. » Le peintre haussa les épaules. Nous sortîmes. On était sur la fin septembre. Il faisait une de ces opulentes soirées d'arrière-saison qui sont en Bretagne d'un charme unique. Le sang de l'astre évanoui empourprait encore la cime des hêtres. Entre leurs fûts cerclés d'argent, l'ancienne route royale, condamnée depuis près d'un siècle, semblait la maîtresse avenue d'un parc désert, menant très loin, dans l'ombre, vers quelque châtelainie enchantée. « Par ici, » dit Glézard, presque à voix basse. Il prit sur la gauche un sentier plongeant et nous dévalâmes dans une grève étroite aux courbes sinueuses, illustrées comme un intérieur de conque. Un filet d'eau perlée glissait sans bruit à travers des sables d'un rose délicat. Glaizard ne s'arrêta que lorsque nous eûmes contourné l'anse et gagné la hauteur abrupte qui lui faisait rempart du côté de l'Occident. « Maintenant, murmura-t-il, regarde-moi ce paysage. Sens-tu comme tout y est en quelque sorte plein de passé? Et quelle noblesse, quelle majesté, quel silence !» C'était vrai. Impossible d'imaginer un plus merveilleux décor de légende. Et le silence y était, en effet, d'une solennité grandiose et quasi épique, comme peuplé d'immenses souvenirs. « Très beau. Très impressionnant, répondis-je. Mais... » Glaizard ne me laissa pas achever.
« Oh, fit-il, je t'entends bien.
Et si ça n'avait été que pour te mettre de moitié dans ma découverte, je ne t'aurais pas dérangé.
Non, il y a autre chose. »
Ce que tu as là sous les yeux n'est qu'un cadre vide. Il y manque la figure animée qui lui donnera, en y répandant le frisson de l'être et de la vie, toute la signification dont il est capable. Cette animatrice, elle va se montrer. Tu la connais par ce qui t'en a été révélé ce tantôt. L'étrange fille dont parlait l'aubergiste, c'est elle-même.
Une sauvagesse, dit-on, il se peut.
Pour moi, quand elle m'est apparue, je me suis écriée comme Ulysse en présence de Nausicaa,
« Jeune vierge, à moins que tu ne sois quelque déesse sous les traits d'une mortelle.
Les vers d'Homère ont-ils en eux une mystérieuse vertu d'incantation? Je l'ignore. Ce qui est sûr, c'est que cette cimérienne indomptable et farouche, ennemie de tout contact humain, je l'ai eu vite apprivoisée. Journellement, elle me fait visite, s'accroupit dans la mousse à mes côtés, joue avec mes pinceaux. Moi, ses moindres mouvements me sont un délice. Elle est toute harmonie. Son corps a le nombre et l'aisance d'un beau rythme. Mais le plus curieux, le plus attachant, c'est qu'il existe entre cette fille et ce paysage une correspondance et comme une parenté secrète. Elle est cette nature faite femme. Le ciel, la terre et l'eau s'expriment et se marient adorablement en elle. C'est la même pureté de ligne, la même grâce primitive et profonde. La mer, toutefois, est son véritable élément. Je la vois surtout comme une Néréide, attardée aux rives du Septentrion. Et le désir m'est venu de la peindre en sirène, non point vivante, mais morte, dissoute à demi dans la vague, tandis que derrière elle, triste du trépas de sa dernière fille, pleurerait le vieil océan. Quelque chose comme le crépuscule et la fin des antiques divinités marines, tu conçois? J'ai tout lieu de croire qu'elle s'y prêterait sans difficulté. Seulement, il faudrait pour cela pouvoir me faire entendre d'elle. Et je ne sais pas un traître mot de breton. D'autre part, à qui recourir? Où trouver un intermédiaire intelligent? Il n'y a dans ces environs que des rustres. Alors?
Il suffit, répondis-je. Je te servirai de truchement. Mène-moi quand tu voudras vers ta sirène. Il marmonna. J'en serais bien embarrassée, puisque j'ai beau interroger les gens, nul n'est à même de m'apprendre où elle perche.
Et me faisant signe de m'asseoir près de lui, sur un rocher de granit mauve, sous les grands panaches assombris des pins, « Non, reprit-il, c'est elle qui va venir à nous. Son heure est prochaine. Le flot commence à monter. » Je fus pour lui dire que je ne saisissais guère le rapport, mais toute son attention s'était fixée sur l'entrée de l'anse, où la marée du soir s'épandait. Je me laissais aller moi-même à la douceur hypnotisante du spectacle. La mer avançait sans bruit, comme respectueuse du veuvage de cette solitude. C'était une pénétration lente, continue, silencieuse, presque mystique, comme d'une foule qui se recueille aux abords d'une enceinte consacrée. Pas un clapotis, pas le plus léger murmure d'onde, pas un souffle. Rien qu'une poussée tranquille, le déroulement discret sur les sables d'une large bande de moire glauque où, çà et là, le frisli d'un courant projetait une rapide lueur d'écaille. Peu à peu, le flux baigna le pied de la haute berge sur laquelle nous étions assis. Et du pâle miroir des eaux, une voix soudain s'éleva, une voix aussi ténue qu'une haleine et qui modulait en cadence une plainte longue, une sorte de soupir enamouré.
C'est elle, dit Glézard. C'est notre jeune amphibie. Tous les soirs, à la mer montante, elle m'arrive ainsi en nageant. Vois avec quelle élégance heureuse elle vogue, toute nue, ses maigres locs noués en paquet au-dessus de sa tête. Ses membres semblaient avoir en effet la belle rythmie, la noble aisance fluide de l'élément qui la portait. Elle se laissa déposer par lui dans les marnes roses du fjord qu'il achevait d'envahir, se mit debout, sans hâte, en sa nudité ruisselante, secoua le front pour en faire tomber ses vêtements, et après les avoir passés un à un, escalada toujours fredonnant la même cantilène languide et monotone, le versant où nous l'attendions. Ma vue l'étonna, lui déplut. S'interrompant de chanter, elle eut un cri rauque, le strident coup de sifflet d'un courlis qui va s'envoler. Mais Glézard, m'ayant entouré le cou de son bras pour marquer qu'il m'avait en affection, elle sourit, s'approcha, farouche encore, le pas hésitant. Dans le velours bruni des mousses, ses pieds luisaient d'un éclat ambré. « Dépêche-toi, parle, explique-lui, dit Glézard. » Le discours que je lui tins en breton fut à peu près le suivant. « Mon ami te trouve belle, très belle, et il brûle d'envie de te mettre dans une image. Si tu y consens, tu lui feras beaucoup de plaisir. » Il te représentera bercé par la mer, comme une enfant des grèves que tu es. Tout ce qu'il te demande, c'est de rester quelque temps devant lui, sans harde, tel que tu étais il n'y a qu'une minute, quand tu nageais, mais par exemple, en bougeant le moins possible, en feignant quelqu'une qui flotterait endormie et comme morte. M'as-tu compris ? Elle m'avait écouté d'abord, avec une expression de joie puérile. Puis, au dernier mot, elle avait baissé la tête. Ses prunelles d'émeraude ardente s'étaient voilées. Lentement, laborieusement, elle répétait « Belle, dans une image, morte. » Ses yeux, en se relevant, alertes au peintre, l'enveloppèrent d'un long regard de bête soumise, douloureusement passionnée. « Varro !» balbutia-t-elle avec effort. Et humant l'air comme pour s'orienter vers son gîte, elle disparut. « Elle refuse ? » questionna Glézard anxieux. « Au contraire, elle a répondu « Demain. » C'est donc qu'elle accepte. Il n'était pas trop tard pour regagner Quimper par le train de nuit. Glézard m'accompagna jusqu'à la station de la Boissière et, en guise de remerciement, promit de m'écrire la suite de l'aventure. Au lieu d'une lettre, ce fut un télégramme que je reçus. Par navré, saura par les journaux pourquoi. Et dans la semaine, en effet, les gazettes locales, à la rubrique des faits divers, annoncèrent que le peintre Glézard, un fanatique du fjord Saint-Jean, il avait retiré de l'eau le cadavre d'une pauvre idiote dont c'était la manie de s'y baigner en toute saison. Pour mieux poser, la sirène morte, la malheureuse, dans la simplicité de son intelligence et la ferveur de son amour, n'avait rien trouvé de plus naturel que de se noyer.